Chronique des années égarées.
Témoin privilégié d'une époque à la fois riche et douloureuse, Serge Moscovici nous conduit sur les chemins du souvenir de son enfance roumaine à Paris. Il est le guide de cette histoire qui est un peu la nôtre.
Serge Moscovici, bonjour.
Bonjour.
Alors, hiver 43-44, les troupes soviétiques approchent de la Bessarabie, la roue tourne, on a la sensation en tout cas que cette roue est en train de tourner. Et votre père, qu'est-il devenu? Parce qu'il y a des rumeurs d'un troisième mariage.
Oui, vous savez, je me souviens d'avoir vécu ces 4 années comme des années où on ne voit pas le soleil. Vous savez, comme quelqu'un qui, pendant l'hiver, rentre travailler le soir, va travailler le matin, il sort le soir, il ne voit jamais le soleil. Et aussi, je ne garde que des sens, corporellement, si je puis dire, des sensations de froid, de fatigue et de faim aussi. Et 43-44, c'est un peu le soleil. Vous voyez, on commence à voir un peu une lumière parce que les troupes soviétiques avançaient vers la Roumanie et malheureusement parce que les bombardements américains et anglais ont commencé à devenir réguliers. Ça, c'était un bon signe, si on peut dire. Et alors, il y avait comme ça une sorte de sève de cette vie comprimée pendant des années qui commençait à remonter, en même temps que la peur, parce qu'on savait que si les Allemands se retiraient, à ce moment-là, il pouvait y avoir des pogroms ou des déportations. Et d'ailleurs, les déportations les plus massives et les plus meurtrières se sont produites dans ces années-là, en 43, 44, 45. Et alors mon père, bien, il a disparu, moi je me suis séparé de lui, je ne sais pas, mais depuis que nous sommes revenus à Bucarest de Bessarabie, je vous ai raconté dans l'année 40 comment les choses sont passées. Bien que rétrospectivement il a sauvé ma vie, parce que la plupart des gens ont été déportés, nous ne sommes pas vus. Il habitait pas très loin, il travaillait, il avait un magasin ou un bureau, il vendait des tissus. Et je sais qu'en même temps, pendant ces années-là, c'est mon cousin qui me l'a dit, moi je ne l'ai pas vu, il a souffert d'une très très grave dépression. Donc je ne l'ai pas vu et les premières nouvelles que j'ai eues de lui, de cet homme un peu volage, si on peut dire, c'est-à-dire qu'il allait se remarier. Il avait une sorte d'attachement à l'institution du mariage incompréhensible pour quelqu'un qui était si, si peu fidèle à ses femmes. Et c'est ma tante qui m'en a parlé parce qu'elle lui était très attachée et elle était très triste. De le voir, d'une part de voir que nous ne voyions pas, que nous étions séparés. Elle était très fâchée contre lui. Et en même temps, elle lui était très attachée et je pense que le mariage était pour elle une sorte de trahison.
Alors on a dit il y a un instant que la roue tournait ou que c'était en tous les cas la sensation qu'on pouvait avoir. Pourtant il y a des rumeurs qui circulent et il y en a une notamment qui parle d'envoyer les Juifs de Bucarest à proximité du front pour effectuer des travaux forcés. Ça incite donc un certain nombre de Juifs peut-être au départ. Et votre père d'ailleurs est un peu de la partie puisqu'il se procure des faux papiers pour obtenir
un
visa.
Oui, alors à cette époque-là, il y a un certain nombre de Juifs qui sont partis en Palestine. Et lui, il a commencé à se procurer des papiers parce qu'il voulait partir en Amérique latine. Et je me souviens, c'est une chose comique, il m'a fait faire un certificat de naissance qui attestait mon appartenance à la religion catholique.
Daté de votre naissance, d'ailleurs,
oui.
Daté de votre jour, donc tout avait été respecté.
Oui. Et donc,
vous avez toujours ce document?
Non, je ne l'ai plus. Mais je me souviens très bien de ce document. Mais je pense que c'était de sa part plutôt une agitation. Je ne crois pas qu'il aurait poursuivi cette idée jusqu'au bout. Et donc on est resté. Et puis j'avais mes amis. En fait, ma famille à ce moment-là, c'était Tantiana et mes amis, Izou, Eddie, Harry, etc. Et donc, nous avons commencé à mener... On a retrouvé une sorte de jeunesse. Je ne sais pas pourquoi, si vous voulez, dans ces périodes peut-être de panique, on a le plus envie de vivre, de faire des choses. Et puis, quand même, nous avions un certain espoir à ce moment-là que peut-être nous allions survivre.
Mais il est vrai que les travaux forcés que vous veniez de vivre n'étaient pas tellement le fait d'adolescent que vous étiez encore.
Non. Mais enfin, je vous ai dit, j'ai l'impression d'avoir raté mon adolescence parce que, malheureusement, tous ces événements m'ont entraîné dans l'histoire, en histoire directement.
L'amour est également au rendez-vous.
Oui.
L'amour s'appelle Marthe.
Oui.
Et vous en parlez, j'en ai retenu comme ça quelques mots qui nous la rendent à la fois vivante et, ma foi, fort sympathique. Elle croyait au mauvais œil, au pouvoir des charmes et des signes.
Oui. On a commencé, si on peut dire, à ce moment-là. Je ne sais pas, après toutes ces années d'ascétisme, on avait aussi une sorte de surplus d'envie d'amour. Et j'ai rencontré Marthe un jour, comme ça, par hasard, dans la rue, qui était une jeune femme vivant dans sa famille de Bucarest. Mais elle n'était pas de Bucarest. Et c'était quelqu'un de très superstitieux, c'était une sorte de grand chat, hein, qui aimait rester chez soi et aimait m'écouter lui raconter ma vie ou mes histoires, parce que j'aimais bien raconter des histoires. Et pour elle, tout ce qui se passait dans ce monde avait une sorte d'interprétation magique. Et elle croyait dans le mauvais œil, dans les signes du zodiaque, dans toutes ces choses auxquelles on croit aujourd'hui, mais à ce moment-là, pour nous, c'était vraiment de la superstition.
Mais il y a des femmes déjà qui ont habité votre vie et qui croyaient elles aussi aux superstitions. Mais dans vos gouvernantes, il y en avait certaines, me semble-t-il, si ma mémoire est bonne, qui pratiquaient aussi ce style de superstition, en tout cas.
Oui, mais à ce moment-là, la superstition m'était familière, faisait partie du monde magique de la campagne, si vous voulez. Mais entre-temps, j'étais devenu à peu près intellectuel, rationaliste, mécréant, et donc rencontrer une femme très physique en même temps, très physique et très superstitieuse, ça m'avait entraîné d'ailleurs dans cette envie, de nouveau dans l'envie de raconter et de créer comme ça des personnages. C'est pour ça que je lui ai raconté une histoire de Don Quichotte.
Quelque peu réaménagé, hein, soyons
honnêtes. Réaménagé, oui.
Peut-être que vous pouvez en faire profiter les auditeurs.
Eh bien, j'avais combiné l'idée du golem et de Don Quichotte, et je racontais que Don Quichotte était en fait était venu voir le Rabbi Lev à Prague, et il est mort à Prague, et que Rabbi Lev, à ce moment-là, a créé le golem, et à la place de Don Quichotte, il a envoyé le golem en Espagne, parce que je crois finalement que le personnage de Don Quichotte est un personnage juif, c'est-à-dire quelqu'un qui essaie de rêver sa vie. Et je pense que si on regarde rétrospectivement la vie de la plupart des communautés juives, les gens passaient une grande partie de leur vie à rêver sa vie. D'ailleurs, il y a un roman dont je ne me rappelle plus l'auteur, qui s'appelle « Le rêveur du ghetto ». Il y avait du rêveur du shtetl. La vie juive était une vie mi-réelle, mi-rêvée.
Alors, politiquement parlant, le maréchal Antonescu paraît, jusqu'à ce moment-là en tout cas, déterminé à rester l'allié d'Hitler, et cela jusqu'au bout.
Jusqu'au bout. Il est resté jusqu'au bout, d'ailleurs. Et il a été, en fait, l'armistice avec les Russes a été déterminé et signé par le roi Carole, qui l'avait arrêté, hein, et qui l'avait chassé du pouvoir. Et donc, moi, je pense que malgré tout ce qu'on dit aujourd'hui ici et là, le maréchal Antonescu est resté fidèle aux Allemands jusqu'au bout.
Deine hohlen Gräuser nur wie hohlen Bieder. Da weiß ich in der Hure, wer die gewandt. Mit Kigus, der muss richtig sitzt am Mieder. Du Singale, der Weide liegt verbrennt. Kieg, wo's der, wo's richtig sitzt an nieder. Du Singel der Weide liegt verbrennt. A wohl wird weinen mit der Schöps zusammen. Du Singel wird sie führen mit die Hand. Nur heim kommt nur wie bringen Träs der Singale, der Weide liegt verbrennt. Nur heimkommt, nur die Bränken trägst der Moment. Singale, der Weide liegt verbrennt. Ziegele sich tunen, sie sollen oben beide sich da kennen. Die Momme aber weinkommt sie nicht schulen. Du Ziegele der Weile liegt verbrennt.
C'est donc l'armistice, l'euphorie aussi, mais c'est une euphorie qui va être finalement de très courte durée. Et écrivez-vous, très bientôt l'inquiétude et la déception nous mirent les nerfs en pelote.
Oui, parce que ça a été, c'était d'abord cette formidable libération. Mais on avait toujours peur que les Allemands reviennent, puisque les Allemands étaient en Roumanie, et on a connu à Bucarest 3 jours de bombardements les plus durs de la guerre. Et on avait peur de des destructions allemandes, puisque au début du mois d'août, je crois que les Allemands avaient détruit la Varsovie, on pouvait craindre la même chose à Bucarest. Et puis, ça a été une drôle de guerre, puisque les Roumains ont commencé à se battre avec du côté des Russes, contre les Allemands. Et quand la paix est venue, enfin, la paix ou la victoire alliée, en mai 45, on a commencé à vivre une drôle de période, parce qu'on était à la fois libre, mais en fait, en même temps, commençait l'occupation russe.
Alors, quand est-ce que tout ça va définitivement s'arrêter?
Quoi, l'inquiétude?
L'inquiétude?
Jamais.
Jamais, vous la vivez en permanence.
Oui,
sur
oui.
Ce sol roumain, vous ne vivrez que ça.
Oui. L'inquiétude, l'incertitude, mais pas que ça. Mais enfin, ça, c'était assez...
Avec Marthe, vous écoutez beaucoup la radio, donc vous êtes toujours très, très au courant de ce qui se passe.
Oui, j'étais pratiquement à ce moment-là comme les Israéliens. C'est-à-dire, j'écoutais tous les jours la radio, 3-4 fois par jour. Et on vivait dans cette interrogation permanente.
Alors, début 44, tante Anna a vieilli, et vous pensez que l'heure pour vous est venue de travailler, de gagner de l'argent, et vous vous retrouvez dans une usine métallurgique à Bucarest.
Et oui, parce que, bon, c'est elle qui a travaillé pendant toute la guerre, si vous voulez, nous a nourris, logés. Et après tout, j'étais pas son fils. Et donc, j'ai décidé d'aller travailler dans une usine de métallurgie, puisque au lycée industriel et à l'école de l'Orte, j'avais appris la mécanique, l'ajustage. Et donc, j'ai travaillé pendant environ 2 mois ou 3 mois dans cette usine, ce qui était pour moi un travail très difficile, parce que d'abord, j'étais anémié, mal nourri pendant la guerre, et je n'ai jamais travaillé, disons, du matin au soir, devant, dans un espace fermé, un rythme qui est celui d'une usine métallurgique, dans un monde qui m'était complètement étranger.
Qui est très fermé, d'ailleurs.
Et qui est très fermé, même si j'étais communiste, même s'il y avait des communistes, mais enfin, le monde ouvrier est un monde très fermé, et un peu hostile à celui qui vient du dehors.
Mais on ne vous voit d'ailleurs pas à l'usine comme étant un ouvrier.
Non, comme ça, non, bien sûr que non. Et ils avaient raison, je ne l'étais pas. Et alors c'est Tantiana qui un jour vient me dire que, en fait, je lui coûte plus que je lui rapporte, puisqu'elle doit me nourrir, doit s'occuper de mes vêtements, de tout ce que je déchire, salis, etc. Et m'oblige de reprendre mes études, enfin mes études, je me suis inscrit au lycée, c'est elle qui m'a inscrit d'ailleurs au lycée, un lycée qui s'appelait Cultura, qui était quelque chose de très provisoire, où chacun allait ou venait quand il voulait au lycée. Et elle m'a dit, il faut que tu passes ton bac. Et alors je lui ai promis de le faire, et c'est comme ça que ma première carrière d'ouvrier a fini. C'est arrêté, parce que je suis rentré en usine 2 fois, et puis quand je suis venu à Paris, j'ai travaillé quand même pendant 3 ans dans la confection, la chaussure et d'autres métiers de ce genre.
Alors, rétrospectivement, avec le regard du temps qui passe, quelles sont les odeurs, les gestes qui vous restent de cette première expérience d'ouvrier ?
Mais ce qui me reste d'abord, c'est la sirène de l'usine. Et puis, ce qui me reste aussi, c'est pendant le travail de nuit, le bruit des laminoirs, vous savez, de la tôle ondulée qui craque et qui se modifie. Et aussi, cette atmosphère pleine de gaz, de...
Parce qu'on vous sent, en vous lisant, à la fois dedans et dehors. Dedans parce qu'effectivement, vous êtes un ouvrier comme les autres, donc vous devez travailler. Et dehors parce qu'on perçoit déjà le sociologue avec un regard sur l'autre, quelque chose qui est du domaine plus de l'analyse.
J'étais dedans parce que j'étais après tout un ouvrier. Puis j'avais un métier. Et j'étais dehors, pas tellement parce que j'étais sociologue, mais à la fois parce que je regardais la chose d'un œil politique, si on peut dire. Et en même temps, j'avais quand même mes amis et une certaine vie intellectuelle, mais difficile à ce moment-là.
Est-ce que l'antisémitisme existait au sein de l'usine ou pas du tout ?
Bien sûr, aussi. Quand même, la classe ouvrière roumaine a été très marquée par l'antisémitisme, oui.
Chronique des années égarées, Serge Moscovici, édition Stock, un feuilleton présenté par Paul-Henriette Lévy.
Réalisation technique, Jean-Philippe Andlicher.